C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Alors qu'on apprend que le nombre officiel de cas qui sera dévoilé à 11h ce matin atteint 550, là, ce qui est beaucoup, et on l'a vu, la tendance est à la hausse depuis les dernières semaines. Québec précise le passeport vaccinal. Question ce matin pour les commissaires. Est-ce que le gouvernement est en train de créer ou vient de créer deux classes de citoyens? Luc?
Non, pas du tout. Je pense que c'est une classe de citoyens. Puis encore, moi, je me rappelle que au printemps, j'avais dit c'est ça la solution. Vous rappelez-vous, j'avais fait une farce. J'avais dit faudrait qu'il demande le passeport vaccinal pour les activités non essentielles, dont la danse en ligne sur le quai à Percé. Tu sais, j'avais dit ça. Tu sais, puis là, donc je devrais être content parce qu'ils font ce que j'ai dit. Fait que je devrais être content.
En principe.
Ouais, mais je suis pas qu'est-ce qui marche pas? Toujours qu'il y a un petit quelque chose qui marche pas. La maladie a évolué. Hein? Puis la vaccination, on l'a vu hier avec les tests aux États-Unis, les rapports aux États-Unis. Malheureusement, à cause du variant Delta, puis aussi la durée de la maladie, de la pandémie, ben l'efficacité qui était à 91% est passée à 66% pour le variant Delta. Il reste que 75% des gens qui sont malades sont des gens qui n'ont pas été double vaccinés. Mais quand même, ceux qui sont double vaccinés ont quand même des chances de l'être. Alors, ce qui se passe, c'est que là, on met en place un passeport vaccinal qui ne jouera pas le rôle qu'on pensait qu'il allait jouer. Le rôle qu'on pensait qu'il allait jouer, c'était je vous donne le passeport vaccinal, puis vous retournez à la vie normale. Parce que là, tout le monde est vacciné, vous avez votre passeport qui le preuve, ben on ouvre les restaurants, les salles de spectacle, les événements, oui, c'est fini, là. Vous avez le passeport qui dit que vous êtes vacciné. Non, là, on rajoute le passeport à des mesures qui sont déjà en place et qui ne disparaîtront pas. Fait que c'est déprimant, c'est un moyen temps. C'est déprimant. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'on fasse à la maladie un coup de sumo. Tu sais, les sumo, là, les gros lutteurs japonais, là, tu pognes la maladie, tu renverses ta bédaine en la tenant par la ceinture, tu l'amènes en dehors du ring puis tu la pitches dans la salle. Mais c'est pas ça qu'on fait. Et malheureusement, ce qu'il aurait fallu faire, c'est aller un pas de plus, je pense, une hypothèse, c'est aller un pas de plus, puis passeport vaccinal pour les activités essentielles, l'éducation, pour l'ensemble des employés. Puis qu'on se débarrasse de cette maudite affaire-là.
Ben, t'imagines-tu, là, t'entres à l'épicerie, à la pharmacie, partout dans ta ville, passeport vaccinal.
Peut-être pas la pharmacie.
Moi, je dis non. En fait, le passeport vaccinal, pour moi, c'est la bretelle qu'on ajoute, les bretelles qu'on ajoute à la ceinture. C'est une couche sur le plan sanitaire, une couche de plus qui va augmenter notre protection.
Mais c'est plate,
collectivement.
Ça,
oui, qu'est-ce qui est plate?
Mais c'est plate, c'était pas ça qui était prévu.
c'est qu'on...
Au printemps, on pensait qu'on aurait le passeport vaccinal, mais on retourne à la vie normale.
Oui, mais le variant est arrivé.
Je sais.
Et le Delta est arrivé, c'est-à-dire. Et moi, j'ai beaucoup aimé la déclaration du ministre de la Santé hier, Christian Dubé, qui nous a dit, il n'est pas question de prendre en otage la majorité, une majorité pour faire plaisir à une minorité qui ne veut pas se faire vacciner. Ben, j'ai applaudi à cette déclaration. Je me suis dit, à un moment donné, là, enough is enough, ça va faire, là. On peut-tu, dans le fond, déployer le maximum de moyens sur le plan sanitaire pour tenter de, comment dire, d'endiguer l'hémorragie sur le plan du variant? Est-ce que ça va donner des résultats? On n'en sait trop rien, mais ça vaut la peine d'essayer, cependant. Et moi, je me questionne, avec l'annonce d'hier, est-ce qu'il va se passer le même phénomène qu'en France? Rappelez-vous, lorsque les autorités là-bas ont annoncé le passeport vaccinal, les gens ont accouru se faire vacciner. Alors, est-ce que c'est le moyen qui va permettre aux plus récalcitrants de dire, là, t'sais, l'argument ultime là, qui va permettre aux gens de dire, à ceux qui veulent pas se faire vacciner, ben, je pense que je vais y aller. Si je vais aller au resto avec ma femme, mes enfants, mon beau-père, vous comprenez? Alors moi, il y a plein de questions qui demeurent sans réponse, mais c'est sûr que lorsque le ministre de la Santé, à ton micro, Paul, dit 550 nouveaux cas aujourd'hui, sur 19 malades hospitalisés, là, il y en a 90% qui n'étaient pas doublement vaccinés.
Oui.
Il faut faire quelque chose.
C'est clair que c'est une meilleure nouvelle que s'il ne l'avait pas eu. Mais
toi, t'es déçu parce que tu t'attendais à plus.
Moi, je m'attendais à plus, puis je me demande aussi si ça va marcher. Parce que regarde, d'abord, il y a des incohérences de base. Il y a des incohérences quand t'appliques une loi ou un règlement, tout est nouveau, il y a des incohérences. Comme par exemple, il n'y aura pas de passeport vaccinal dans le métro. Il n'y a pas un guichet à l'entrée du métro. Fait que là, tu vas prendre le métro.
Mais là, c'est un service essentiel, le métro.
Tu vas mettre ton masque.
Ben, c'est ça. Tu mets ton masque. Mais là, ça suffit le masque dans le métro, tu sais. Là, t'arrives au restaurant. Ah, là, par exemple, non. Là, faut que tu montes ton passeport vaccinal. Là, les gens peuvent pas ne pas voir l'incohérence. Ils vont dire, on était 200 dans le métro collés les uns sur les autres. On n'avait pas besoin de passeport vaccinal. On arrive au restaurant, on en a besoin. Fait que là, il y a des petites incohérences comme ça.
Ouais.
C'est pas de la faute
mais
du ministre, mais bon.
Moi, si je vais au resto, il y a quelque chose que je trouve rassurant dans le fait que je suis dans un espace où je sais que tous ceux et celles qui sont autour de moi sont doublement vaccinés.
Ben, j'ai une question à te poser, Nathalie.
Sauf le personnel.
Oui, parce qu'il n'y a pas d'obligation, ouais. effectivement,
non,
pour le personnel.
Non, là, t'es dans le monde du travail.
Alors, ben là, c'est sûr. Sauf qu'il y a beaucoup de PME qui disent qu'ils vont l'exiger.
Ben
mais
oui,
en tout cas, je
ne
sais pas
ben
si
oui.
tous les restaurants vont l'exiger, mais c'est vrai, sauf le personnel, ça serait drôle.
T'as une question qui tue?
Ben oui, c'est que... dans une grande institution, tu mets une porte à l'entrée. Là, ça avait été pour les services essentiels, une université. T'as un guichet à l'entrée, montre-moi ton passeport, OK, tu rentres. Dans un restaurant, ils vont-tu engager du personnel avec des gros bras et vont dire, montre-moi donc ton passeport? C'est comme ça que ça va fonctionner? Est-ce que les gens vont vraiment... ça va-tu marcher?
Non, mais le ministre a dit hier, il va y avoir des pénalités, un. Deuxièmement, il a dit aussi, il n'est pas exclu que le passeport évolue dans sa mise en œuvre. Par exemple, ta déception que tu nous confies ce matin, tu arrives dans un resto, tu es obligé de conserver le masque, il y a encore la distanciation, alors que tu as ton passeport, toi, tu montes patte blanche. Peut-être que dans un futur pas si éloigné, on va pouvoir enlever nos masques en entrant dans le resto et peut-être que les restaurateurs vont pouvoir accueillir un plus grand nombre de clients. La situation évolue à vitesse grand V. Tu citais l'exemple de l'étude américaine, c'est ça qu'on espère, CDC. Hier matin, il n'était pas question de ça. Mais ça a popé dans l'après-midi, toi. L'efficacité de certains vaccins qui est passée de
91 à 66.
Voilà, exactement.
Et le ministre prétend qu'au Québec, comme on a étiré le délai,
voilà, c'est ça.
On aurait encore un vaccin qui serait
un peu plus
efficace. Donc, il y aurait moins de pertes.
Bon, mais quelque part dans l'automne, il va se passer la même chose.
Mais là, c'est pour ça que le débat sur
la troisième dose
ouais. effectivement, va arriver. C'est un incontournable. Mais puis moi, j'en ai ras le pompon là, d'entendre l'argument là, des gens qui disent « Bon, ben là, le libre choix, la dictature sanitaire, hey, là, comment? On a, ça fait un an et demi. » Non, mais c'est vrai. Moi, plus capable d'entendre ça. Il y en a qui manifestent encore. Il faut manifester pour le passeport vaccinal, c'est parce que là, gang, là, on est poigné dans le...
Je les approuve pas du tout. Je comprends la base de leur raisonnement. Ils se disent, ben, vous nous aviez dit que le vaccin guérirait tout, puis là, c'est pas le seul, c'est pas le cas. Ma liberté, etc. Puis finalement, ça sert à rien, il y a encore des cas. Mais la base de ce mauvais argument, c'est de ne pas comprendre que c'est un effort collectif. Fait que t'as raison quand t'avais dit le mot-clé, c'est solidarité.
Exactement.
Parce que
tout à
oui, si t'es double vacciné, tu vas avoir des effets mineurs. Mais tu vas peut-être le transmettre à quelqu'un qui va le transmettre à quelqu'un qui, bang, lui, est en comorbidité ou est en chimio ou simplement, il y a une valve au cœur qui marche pas bien ou il a tendance à faire de la détrombose, puis lui, il va mourir.
Ouais, mais Luc va parler aussi aux gens qui sont aux prises avec la COVID longue. C'est
l'enfer.
C'est l'enfer.
Mais ce sont des cas, tu sais, c'est pas tout le monde, là, mais la maladie, plus elle s'étend, plus elle finit par attraper ces cas-là.
Mais en même temps, on peut pas demander l'impossible au gouvernement. Hier, je voyais le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. À un moment donné, il faut arrêter d'y lancer des tomates, le pauvre gars. Là.
Pourquoi?
Je sais que c'est ton sport national favori,
non, mais...
de lancer des tomates à certains
ministres.
Tantôt,
quand je lui parlais, là, je comprends qu'il ne peut pas attaquer la santé publique sur la place publique. Là. Mais tu sais, te faire dire à la dernière minute, là, moi, j'aurais pogné les nerfs. Là. J'aurais dit à la santé publique, c'est pas vrai qu'à deux jours de la rentrée scolaire, vous allez me donner... Puis c'est pas vrai que la situation... a changé tant que ça.
On sait pas qui a ralenti qui là-dedans.
Ben, de ce que je comprends, c'est
la santé publique qui a ralenti l'éducation.
Ben, lui, il aurait souhaité, en tout cas. T'sais,
en politique, l'art de la communication, c'est important. Pourquoi on a l'impression que Christian Dubé est en parfait contrôle de la situation, alors que Jean-François Roberge, on a l'impression qu'il est à la remorque de la santé publique, alors qu'ils sont aux prises avec le même problème? On a deux ministres qui se comportent pas de la même façon sur le plan de la communication. Si, par exemple, Jean-François Roberge avait dit publiquement, j'ai demandé à la santé publique, j'ai exigé
mais
de la santé publique.
Mais Nathalie, je te
trouve
bien fine quand même.
Non, mais moi, hier, je le regardais à la télé, puis je dis, pauvre gars. Non, mais c'est parce que...
Il y a un passif, mettons, sur ce coup-là, il mérite pas de tomate. Il y a un passif, là. Tu te rappelles quand il avait dit que...
Ventilation, détecteur de CO2, je sais... Mais c'est un ministère compliqué, l'éducation. Je t'annonce, Ferrandez, qu'au caucus, il n'y a pas grand député qui lève la main pour être ministre de l'Éducation, ni ministre de la Santé.
J'ai acheté un petit appartement à côté du Parlement, jamais voir ses enfants.
Et la liste est longue.
C'est l'heure de la pause. On va parler maintenant de promesse électorale, celle de M. Trudeau, de créer un compte épargne non imposable, je répète, non imposable pour les 40 ans et moins.
La commission Normando-Ferrandaise.
Famille, s'acheter une première maison, M. Trudeau promet de créer un compte épargne non imposable pour les 40 ans et moins. Il a fixé ça à 40 ans et moins. Et aussi de convertir des immeubles du gouvernement fédéral en immeubles à logement. Alors, promesse ou projet réaliste, Nathalie?
Il y a un petit peu des deux, je crois bien. Oui, c'est évidemment, on est en période électorale, c'est un peu électoraliste. Mais moi, je trouve ça très intéressant parce que on sent que la crise du logement interpelle l'ensemble des partis politiques. Hier, les troupes de Justin Trudeau ont annoncé 10 mesures, rien de moins, 10 mesures. Et en lisant, en faisant un peu de lecture ce matin, je me suis rendu compte que ce fameux CELI là, pour acheter une maison suscite déjà pas mal de critiques. Entre autres, notre collègue Pierre-Yves Maxwell.
C'est son cheval de bataille.
Et voilà, c'est son cheval de bataille. En fait, il n'y a pas de différence tant entre le rap, là. T'sais, les gens, beaucoup de gens ont peut-être rappé dans leur vie. Ce que Pierre-Yves nous apprend, c'est que 35 000 pour le rap versus 40 000 pour ce nouveau régime d'épargne. Puis je me dis, 40 000 piastres, c'est de l'argent, là. Il faut le trouver de 40 000 piastres puis le mettre dans le fameux régime d'épargne pour s'acheter une propriété. Alors moi, je suis assez critique par rapport à cette mesure-là. Par contre, ce qui me donne plus d'espoir, et là, je sais que Luc va réagir, c'est le fait de convertir des immeubles fédéraux en logements. Je trouve ça, un, intéressant. Deux, on sort de la boîte. Parce que qu'est-ce que les autres partis politiques ont proposé? Le NPD a proposé d'allonger l'hypothèque sur 30 ans. Hey, écoute, 30 ans, là, c'est à un moment donné, ça finit plus de finir pour payer ta maison.
Zurich, 65 ans.
65 ans, non, mais c'est pas possible. Là,
deux générations.
Ben oui, c'est ça. Le Parti conservateur du Canada, eux autres, ils disent, ben là, hypothèque à terme, 7 à 10 ans plutôt que 5 ans. Mais dans tous les cas de figure, tu contribues à augmenter l'endettement des ménages. Alors, moi, je suis critique. Mais en même temps, Justin Trudeau a dit, il n'y a pas de solution simple à une crise du logement qui est complexe là-dessus. Il a tout à fait raison. Pour ce qui est de la conversion des logements, je me dis, on a peut-être un début de solution pour relancer nos centres-villes, un. Mmh. Deuxièmement, ça va pas se faire du jour au lendemain, on s'entend, mais il y a un début de solution pour des immeubles qui vont se retrouver avec le télétravail en disponibilité. Alors, je me dis, en quelque part, ça demeure un élément, comment dire, une voie intéressante.
Oui, ben c'est une piste qui a été essayée à Calgary, parce qu'à Calgary, avec la crise du pétrole, ils ont eu énormément d'immeubles vacants au centre-ville. Puis, c'est une piste qui concerne un petit nombre d'immeubles. C'est-à-dire que, d'abord, il y a de la réorganisation à faire entre les immeubles. Tu sais, c'est que si tu as 30% de vacants dans un puis 30% de vacants dans l'autre, ben il faut que tu consolides tout ça. Puis, des fois, ben ils sont pas au même endroit, puis c'est pas les mêmes ministères, etc. Il y a beaucoup de travail à faire pour y arriver. Mais surtout, tous les immeubles ne s'y prêtent pas aisément, parce que dans un immeuble à bureau, toutes les colonnes de d'eau sont autour des ascenseurs. Les toilettes sont autour des ascenseurs. Là, tu mets des appartements aux quatre coins de l'immeuble. Il faut que tu fasses refaire la plomberie puis que tu perces les planchers de béton sur tous les étages. Ça, c'est une chose. Ensuite de ça, il y a la climatisation. Chaque appartement veut sa climatisation individuelle. Ça fonctionne pas pareil. Donc, il faut que tu fasses passer des colonnes de climatisation vers le toit. Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. C'est pas tous les immeubles qui s'y prêtent. À Calgary, ils arrivaient à l'analyse selon laquelle il y en avait environ 10% qui s'y prêtaient. Le fédéral a 235 immeubles. 2235 immeubles. Donc, 10%, environ 200 immeubles à travers le Canada. Montréal, c'est 20% de la population du Canada. Donc, 20% de 235. Ça donne 40 immeubles. Bon, c'est pas avec ça qu'on va régler le problème. Mais c'est une belle solution. Tu sais, c'est quelque chose qui vaut la peine. Mais ça, pour l'ensemble des solutions déposées, M. Trudeau a utilisé une formule. C'est un problème complexe. On ne pourra pas le régler avec une seule solution. Mais j'aurais voulu lui dire aussi, c'est un problème majeur. On ne peut pas juste le traiter avec des solutions mineures. Et là-dedans, il y a des solutions qui sont intéressantes, mais il y en a plusieurs qui sont mineures. Donne un exemple. Excusez-moi, c'est beaucoup de chiffres, mais quand tu regardes les chiffres que tu vois ça. D'ailleurs, comme je viens de le faire avec les tours à bureau. Là, récemment, ils ont annoncé 1,5 milliard pour le logement social. 1,5 milliard, il va y avoir là-dedans 338 millions qui vont aller pour 1300 logements à travers le Québec, répartis dans 6 villes. 1300 divisé par 6, ça donne 200 logements par ville.
Mais c'est 200 de plus.
C'est 200 de plus. Tu règles-tu la crise du logement
non.
avec 200 logements?
Non.
Mais c'est ça. Quand tu fais une annonce avec tambour, trompette, pétard et canon, puis là, tu dis « Oui, on va avoir 200 logements de plus par... oui, correct, c'est le fun, merci, merci beaucoup. » Mais l'adéquation problème-solution. On a cette année 40 000 personnes qui vont quitter Montréal, qui vont aller dans les régions parce qu'ils trouvent pas de logement, notamment pour les familles avec deux enfants. Là, 40 000 d'un bord, 200 de l'autre. C'est pas, il n'y a pas adéquation.
En passant, le problème ou le fardeau ne repose pas uniquement sur les épaules du fédéral. Le gouvernement provincial a une responsabilité. Les villes également ont une responsabilité. Le secteur privé a une responsabilité également pour qu'on puisse arriver. Il a aussi annoncé, Justin Trudeau, hier, une charte des droits des acheteurs. Ça, c'est intéressant pour avoir accès, entre autres, à l'historique des prix pour les ventes de maisons. Tu sais, souvent, on n'a pas accès.
C'est bon.
Bon, ça, c'est intéressant. L'autre chose, on veut doubler le crédit d'impôt pour l'achat d'une propriété de 5 000 à 10 000 $.
Attends, Nathalie, toutes ces mesures-là où tu donnes de l'argent à des consommateurs pour qu'ils aillent acheter dans un marché où, dès que les consommateurs ont plus d'argent, les prix montent, ça, je trouve pas que c'est une bonne solution.
Mais là où je te donne raison, en fait, tu peux mettre tous les crédits d'impôt du monde sur la table, mais s'il n'y a pas de maison disponible...
Voilà, elle va juste coûter plus cher.
Ben voilà, exactement. Sauf que ce qu'on espère tous, c'est que là, à un moment donné, la surchauffe, ça va se calmer, le marché va se calmer. C'est des cycles, là, on le sait. En immobilier comme en économie, puis à un moment donné, c'est comme on va respirer, il va y avoir un peu plus d'oxygène sur le marché. Mais n'empêche que les partis politiques ont le mérite de mettre des solutions sur la table. Est-ce que tout ça va se réaliser? On est en période électorale, faut pas l'oublier. Mais en même temps, je me dis, c'est pas vrai que Justin Trudeau a toutes les solutions à un problème, effectivement, qui nous échappe, là, on s'entend.
Ben, écoute, moi, je pense que c'est la même chose que
toi, t'as les solutions, Luc Ferrandez.
Oui, justement.
On s'y attendait quand même.
Voilà.
Alors, quelles sont les solutions?
Mairie, mesdames et messieurs, Ferrandez à la mairie.
Regarde, c'est pas que j'ai toutes les solutions, mais je les lis de la part de ceux qui les ont. Et la question est la suivante. C'est comme pour le passeport vaccinal, quand je te disais tantôt, j'aimerais ça qu'on fasse un sous-mot à la crise une fois pour toutes, tu sais, puis qu'on la traîne pas avec nous. Mais c'est comme le logement. Tu peux en parler tant que tu veux, mais quand tu arrives avec des petites solutions pour des gros problèmes, tu le traînes, le problème, avec toi. Et je me dis, est-ce que... Et le problème, là, c'est pas un problème juste de famille qui, au 1er juillet, trouve pas de logement. C'est pas un problème d'augmentation des personnes dans la rue. C'est qu'il y a eu un saut, un effet de seuil. Il y a pas eu une augmentation du prix des maisons depuis 6 ans. Il y a eu 300 000 $ d'augmentation pour des appartements ou des maisons au centre, dans les villes. Et ça fait, c'est la différence entre, dans les grandes villes, ça fait la différence entre pouvoir accéder à la propriété ou pouvoir accéder à un logement et ne pas pouvoir.
Mais
bon, premièrement, lui a parlé de la taxe sur les flips immobiliers.
Oui, l'anti-flip, oui, c'est ça.
Mais 12 mois seulement. 12 mois. Moi, je pense, une taxe à la valeur ajoutée sur 5 ans. Tu fais beaucoup d'argent en moins de 5 ans, tu payes une taxe. Tu fais beaucoup d'argent en 10 ans ou en 15 ans, tu payes pas de taxe. La taxe à valeur ajoutée, si tu l'utilises à Paris, ça marche très bien. C'est une source de revenus extraordinaire. Et ça fait que tu n'achèteras pas une maison pour la revendre dans 2 jours. À Granby, dans des villes, c'est même pas Montréal, là. Tu regardes les appartements sur Centris, là, la maison, tout était peinture en blanc, ils ont changé les armoires de cuisine, boum, 200 000 de plus.
C'est partout, Luc. Ben même ouais, en Gaspésie, c'est partout.
Ben là, tu sais, ça, qu'est-ce que tu veux? Et puis, comme la personne l'occupe pendant un an, ou étant son nom, elle paye aucun impôt là-dessus. Ça peut pas, ça marche pas. Avec un système comme ça, il y a trop de trous, là. Faut boucher les trous. Puis, il faut des solutions majeures pour boucher les trous. Et ça taxe de 12 mois sur les flips immobiliers, ou alors empêcher les personnes qui vivent à l'étranger d'acheter une maison
pendant trois ans.
C'est pas pire, ça aussi. Mais on pour Vancouver et Toronto, plus particulièrement pour Montréal, on peut se poser la question si c'est ça qu'il faut faire. S'il faut faire plutôt une taxe sur le flip immobilier à Montréal aussi. Puis, il y a un truc, là. On est passé de 4% de propriétés étrangères à Montréal à 12%. C'est peut-être pas beaucoup, mais ça monte. Ça monte. Et eux, ils fixent les prix hauts.
Au chapitre des promesses hier, le tunnel écologique de Québec, selon François Blanchet. Non, je voulais juste te garder ça pour la fin. Là.
Je perds de l'air. J'ai perdu le souffle.
Écoute, quand je l'ai entendu, là, j'ai tout de suite pensé à toi. Je sais pas pourquoi, mais je me suis dit que tu sois pour le tunnel ou contre, correct, là, ça se défend, mais de te faire croire que c'est une version écologique potentielle, là, un tunnel vert, là.
Oui, en plus, M. Blanchet avait dit, quand il était ministre de l'Environnement, que la cimenterie mécaniste, c'était une bonne idée parce qu'il pouvait la rendre écologique, la cimenterie mécaniste. Puis il a dit ça aussi pour le forage pétrolier. Là, c'est sa troisième prise, out.
Out. Ça termine bien. Merci. À demain. 9h pile. La 13.
C'est 23.